chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Citoyenneté selon l'Évangile avec Sœur Marie-Isabelle.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Nous poursuivons nos enseignements sur la citoyenneté selon l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix à laquelle nous aspirons tous. Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix. Apprends-nous à répondre à la haine par l'amour, à la discorde par l'union, à l'erreur par la vérité, au désordre par la clarté de ton règne. Vous aurez reconnu ici le début de la prière de saint François d'Assise, lui qui est considéré aujourd'hui comme le troubadour de la paix par excellence. Et pourquoi saint François est-il le modèle des apôtres de la paix? Cela fait référence à un épisode célèbre de l'entrevue de François avec le sultan du Caire, Al-Malik Al-Kamel. L'événement, qui se situe en 1219, au moment du siège de Damiette par les croisés, lors de la cinquième croisade, est historique, et saint Bonaventure en a fait le récit. La guerre sévissait alors implacable entre chrétiens et sarrasins, et les deux armées ayant pris possession face à face dans la plaine, on ne pouvait sans risquer sa vie passer de l'une à l'autre. Le sultan d'ailleurs avait publié un édit cruel promettant un bessant d'or en récompense à quiconque apporterait la tête d'un chrétien. Mais dans l'espoir d'obtenir sans tarder ce qu'il désirait, François, le vaillant chevalier du Christ, résolut de s'y rendre. Loin de craindre la mort, il se sentait attiré par elle. Après avoir prié, il obtint la force du Seigneur et, plein de confiance, chanta ce verset du prophète. « Si j'ai à marcher au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » S'étant adjoint pour compagnon, frère illuminé, un homme d'intelligence et de courage, il s'était à peine mis en route qu'il rencontra deux brebis. À leur vue, il se sentit tout réjoui et dit à son compagnon « Aie confiance dans le Seigneur, frère, car voici accompli pour nous cet avertissement de l'Évangile. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Quelques pas plus loin, il tombait dans les avant-postes des sarrasins, et ceux-ci, plus rapides que les loups se jetant sur les brebis, se précipitèrent brutalement sur eux, les saisirent avec haine et cruauté, les accablant d'injures, les chargeant de chaînes et les rouant de coups. À la fin, après les avoir maltraités et meurtris de toute manière, ils les amenèrent conformément au décret de la Providence en présence du sultan. C'était ce qu'avait désiré l'homme de Dieu. Le sultan leur demanda qui les envoyait, pourquoi et à quel titre, et comment ils avaient fait pour venir. Avec sa belle assurance, le serviteur du Christ, François, répond qu'il a été envoyé d'au-delà des mers, non par un homme, mais par le Dieu Très-Haut, pour lui indiquer à lui et à son peuple la voie du salut et leur annoncer l'Évangile qui est la vérité. Puis il prêche au sultan Dieu Trinité et Jésus Sauveur du monde avec une telle vigueur de pensée, une telle force d'âme et une telle ferveur d'esprit qu'en lui vraiment se réalise de façon éclatante ce verset de l'Évangile « Je mettrai dans votre bouche une sagesse à laquelle tous vos ennemis ne pourront ni résister ni contredire. » Témoin en effet de cette ardeur et de ce courage, le sultan l'écoutait avec plaisir et le pressait de prolonger son séjour près de lui. Mais le serviteur du Christ, instruit par une indication du ciel, lui dit « Si tu veux te convertir au Christ et ton peuple avec toi, c'est très volontiers que pour son amour je resterai parmi vous. Si tu hésites à quitter pour la foi du Christ la loi de Mahomet, ordonne qu'on allume un immense brasier où j'entrerai avec tes prêtres, et tu sauras alors quelle est la plus certaine et la plus saine des deux croyances, celle que tu dois tenir. » « Je doute, remarqua le sultan, qu'un de mes prêtres veuille pour sa foi s'exposer au feu ou subir quelques tourments. Il venait en effet d'apercevoir l'un de ses prêtres, pourtant avancé en âge, s'éclipser en entendant la proposition de François. Le saint lui dit alors « Si tu veux me promettre, en ton nom et au nom de ton peuple, que vous passez tous au culte du Christ, pourvu que je sorte des flammes, j'affronterai seul le feu. Si je suis brûlé, ne l'attribuez qu'à mes péchés. Mais si la puissance de Dieu me protège, reconnaissez pour vrai Dieu, Seigneur et Sauveur de tous les hommes, le Christ, puissance et sagesse de Dieu. » Le sultan n'osa point accepter ce contrat aléatoire par crainte d'un soulèvement populaire, mais il lui offrit de nombreux et riches cadeaux que l'homme de Dieu méprisa comme de la boue. Ce n'était pas des richesses du monde qu'il était avide, mais du salut des âmes. Le sultan n'en conçut que plus de dévotion encore pour lui, à constater chez le saint un si parfait mépris des biens d'ici-bas. Mais son refus, ou peut-être sa peur de passer à la foi chrétienne, il pria cependant le serviteur de Dieu, afin d'être plus certainement sauvé, d'emporter tous ses présents et de les distribuer aux chrétiens pauvres ou aux églises. Mais le saint, qui avait horreur de porter de l'argent et qui ne découvrait pas dans l'âme du sultan les racines profondes de la foi vraie, s'y refusa inexorablement. Observant que, sans avoir exaucé pour autant son désir du martyre, il n'avançait à rien pour la conversion de ce peuple, averti d'ailleurs par Dieu en une révélation, il revint en pays chrétien. Chers auditeurs, notez que saint François d'Assise ne semble avoir atteint aucun de ses objectifs dans cette aventure. Il n'a pas réussi à convaincre le sultan d'embrasser la foi catholique. Il n'a pas résolu le conflit entre les chrétiens et les sarrasins. Et la cinquième croisade n'a pas connu un meilleur succès que les précédentes. Et pourtant, notez comment la situation évolue et comment on assiste à une désescalade de la violence. Au début, on nous dit que le sultan avait publié un édit promettant une récompense à quiconque lui apporterait la tête d'un chrétien. Ensuite, le sultan écoute François avec plaisir et le presse de prolonger son séjour auprès de lui. Puis, il lui offre des présents à distribuer aux chrétiens pauvres et aux églises. On sait par ailleurs que le sultan fait à plusieurs reprises des offres de paix, mais ce sont les croisés qui refuseront alors les conditions offertes. L'histoire nous rapporte que les artisans de paix n'ont jamais un succès facile et qu'ils y laissent parfois leur peau. Pensez à Gandhi, qui s'est attelé à faire cesser la longue querelle entre les musulmans, les sikhs et les hindous. Il a consacré sa vie à tenter de les unir en pratiquant une protestation non violente. Mais souvenez-vous de la fin violente de cet homme qui prônait la paix et qui a été lâchement assassiné en janvier 1948 alors qu'il se rendait à une réunion de prière avec deux membres de sa famille. Pourtant, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans cette béatitude, Jésus n'a pas promis le succès à ceux qui œuvrent en faveur de la paix, mais il leur promet la récompense maximale, celle de devenir membres de la famille de Dieu, avec Jésus, le Fils unique du Père. Alors pour nous chrétiens, qui sommes appelés à marcher sur les traces de Jésus, quels sont les efforts concrets que nous pouvons faire en faveur de la paix ? J'ai choisi de vous en exposer cinq moyens concrets de promouvoir la paix. 1. Prenez l'amour et la compréhension entre les hommes plutôt que la violence et la haine. 2. Témoignez de la puissance du pardon. 3. Encouragez les jeunes à être des témoins de la paix et de l'amour du Christ. 4. Promouvoir la prière et la méditation sur le message du Christ. Et 5. Coopérer de manière confiante avec les croyants d'autres religions dans une quête commune pour la paix. Voilà donc 5 moyens concrets encouragés par l'Église à travers les siècles et que nous allons approfondir maintenant. Alors le premier point, prônez l'amour et la compréhension entre les hommes plutôt que la violence et la haine. Comme le disait le pape Saint Paul VI, le temps de l'amour chrétien entre les hommes est venu. Cet amour doit œuvrer, Cet amour doit changer la face de la terre. Cet amour doit porter au monde la justice, le progrès, la fraternité et la paix. Sant'Egidio est une communauté chrétienne de laïcs née en Italie en 1968 au lendemain du Concile Vatican II. Leurs priorités sont la prière, le service des peuples et des actions en faveur de la paix. Cette communauté internationale de Sant'Egidio a été reconnue d'ailleurs officiellement par l'Église catholique comme association de fidèles en 1986. Andrea Riccardi, son fondateur, vient d'écrire au début de ce mois d'avril 2024. Nous faisons face à un sentiment de morosité face à l'avenir. Cela vient du fait que la paix n'est plus pensée. La paix semble impossible. La paix en tant que destin commun de l'humanité a disparu. Pas totalement, espérons. Des agendas des acteurs internationaux. Nous sommes inquiets, mais impuissants. Nous nous armons et nous nous préparons à un conflit plus important, une éventualité que la plupart ne souhaitent pas. Nous devons avoir le courage de rejeter cette attitude résignée et de remettre la paix au centre des préoccupations. Les gens ne veulent pas la guerre. Nous devons faire ressortir le désir profond de paix de la majorité. Saint Jean XXIII, qui avait vécu la Première Guerre mondiale en tant que soldat, avait lancé un message avant Vatican II. Les mères et les pères de famille détestent la guerre. L'Église, mère de tous, indistinctement, fera de nouveau monter une clameur pour répandre des supplications de paix. Une paix qui évite les conflits armés. Une paix qui doit avoir sa racine dans le cœur de chaque homme. Nous devons permettre que s'exprime le désir des peuples, des mères et des pères, des femmes qui ne veulent pas la guerre. Nous ne pouvons pas nous résigner avec fatalisme au fait qu'un jour, la guerre viendra. En Italie et dans d'autres pays européens, le sentiment majoritaire est qu'il faut éviter la guerre et poursuivre sur la paix d'un dialogue fort et vrai. Alors, il faut crier et agir comme et où l'on peut pour redonner à la paix sa place dans l'avenir du monde. Le pape François est trop critiqué pour ses paroles de paix, mais il a le courage de briser le conformisme officiel et médiatique qui a effacé la paix du discours public et de notre horizon. Avec sa voix et ses mains nues, la résignation face à la guerre peut encore être stoppée. La paix est possible. Elle dépend de la situation internationale, mais en fin de compte, elle dépend aussi de nous. Croyons-nous vraiment que la paix dépend aussi de nous? Reprenant la pensée des souverains pontifes depuis 50 ans, le pape François souligne que nous ne pouvons plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est aujourd'hui très difficile de défendre les critères rationnels qui était mûri en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. La paix dépend aussi de nous, car nous pouvons choisir de soutenir les efforts en faveur de la paix plutôt que de soutenir les efforts en faveur de la guerre. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Journalistes pour les droits humains qui a consacré 1,2 million de dollars pour soutenir les efforts visant à réduire les conflits résultant de la désinformation et des discours haineux liés aux médias dans les régions du Soudan du Sud. Leur campagne vise à améliorer les relations entre le gouvernement, les médias et la société civile pour ainsi éviter la violence. Deuxième moyen concret, témoigner de la puissance du pardon. Seul moyen de venir à bout des guerres fratricides qui ensanglantent beaucoup, beaucoup de pays. Dans son livre intitulé « Je viens d'une terre rouge », Denise Wimana rassemble des souvenirs personnels sur le génocide au Rwanda. Voici l'histoire vraie de Cansilde, dont le témoignage est rapporté dans cet ouvrage. En 2015, je suis retournée à Mukoma, le village de mon mari assassiné, pour la commémoration annuelle de toutes les victimes du génocide contre les Tutsis. Je savais que le village s'attendait à entendre mon témoignage et j'ai senti, soudain, que c'était le moment et le lieu d'aborder le thème du pardon. 21 ans après le génocide et après le retour d'une atmosphère de paix. J'étais confiante, mais au moment de me lever pour m'adresser aux quelques 500 personnes réunies devant moi, j'ai ressenti une certaine appréhension. Et étaient-ils prêts pour cela? Je leur demande, est-ce que quelqu'un parmi vous a réussi à pardonner? À mon grand étonnement, au moins une douzaine de mains se lèvent et j'entends, oui, j'y suis arrivée. J'ai reconnu la voix de Cancilde. Je savais que son mari et 5 de ses 7 enfants avaient été tués. Il ne lui reste qu'un fils et une fille qui n'étaient pas à la maison lors du massacre. Tous les yeux sont rivés sur cette mère endeuillée, debout devant eux, qui se prépare à prendre la parole. Le 9 avril 1994, une bande de miliciens Hutus a envahi ma maison. Ma famille s'est faite surprendre. Un instant, elle reste sans voix, mais elle parvient à reprendre. Un jeune voisin, Emmanuel, a tué mon mari et 5 de nos enfants. Il a été arrêté et emprisonné l'année suivante. Mais il y a 3 ans, il a été libéré. Avant de rentrer chez lui, Emmanuel a essayé de venir chez moi pour reconnaître ses torts. Mais le village avait appris son arrivée et a organisé une manifestation si bien qu'il n'a pas pu venir ce soir-là. Le lendemain matin, il s'est présenté à ma porte pour implorer mon pardon. Il m'a dit « Depuis ce jour-là, je suis en permanence écrasée par la honte. » Cancilde doit de nouveau s'interrompre, puis conclut tranquillement. Mon cœur avait alors été affranchi de la haine, parce que nous, les veuves, avions lu l'Évangile ensemble. Le message de l'Évangile a préparé mon cœur à pardonner. 4 mois plus tard, lors d'une nouvelle visite à Mukoma, Cancilde vient me saluer. Un homme marche à côté d'elle d'un pas hésitant. « Bienvenue, Denise, » dit Cancilde. « Je te présente Emmanuel. » Emmanuel était un adolescent en 1994. Il avait entendu les consignes sans cesse répétées à la radio de massacrer tous les Tutsis. Il avait senti la fumée des incendies. Il avait perçu l'excitation qui montait autour de lui. Quand les miliciens Hutus font éruption à Mukoma, coiffé de feuilles de bananier, il est mûr pour répondre avec zèle à leur appel aux armes. Il se sent galvanisé par leur chant d'extermination qui est encore plus enivrant que la frénésie des supporters pendant les matchs de foot. Cette fois, il ne va pas se priver de passer lui aussi à l'action. « Si tu ne tues pas, t'es pas un homme !» C'est ainsi que le chef provoque ses recrues à suivre son exemple. « Il est temps de s'y mettre, éradiquer tous ces serpents. Et rappelez-vous, les jeunes vipères sont aussi mortels que les adultes. Sur ce, ils fondent sur nous sans cesser de psalmodier leur cantilène. Emmanuel se saisit d'une machette et se lance dans la curée. Puis pris d'un zèle féroce pour établir publiquement sa virilité, il s'attaque à la maison de Cancilde. Depuis ce jour-là, je suis en permanence écrasée par la honte. Lorsque Emmanuel est arrêté l'année suivante, un nouveau gouvernement a remplacé l'ancien et le massacre est déjà une histoire ancienne. C'est en prison qu'il est rattrapé par l'horreur de la réalité. Dans des conditions de promiscuité et de saleté, Emmanuel tente de survivre. Mais chaque année, il est de plus en plus hanté par les visages des enfants qu'il a tués. Il est horrifié par ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ces actes inqualifiables? La torture mentale qu'il subit est si intense qu'il en vient à croire que même l'enfer ne peut pas être pire. En juillet 2000, Emmanuel avoue ses crimes et tente de faire comprendre la culpabilité qui le submerge. Comment espérer que le système judiciaire puisse traiter près de 130 000 accusations de participation au génocide? D'autant plus que la plupart des juges et des avocats sont soit morts, soit ont fui pendant le génocide. C'est ainsi qu'en 2002, le nouveau gouvernement institue les gachacha dans tout le pays. Les gachacha, ce sont des tribunaux qui sont inspirés du système traditionnel d'administration de la justice. Dans chaque localité, des hommes et des femmes de confiance sont nommés comme juges. Une communauté de village se réunit chaque semaine en plein air dans l'une des localités jusqu'à ce que tous les dossiers de leur région soient entendus. Les accusés y sont amenés depuis leur prison et toute personne présente peut les interroger. Les juges examinent les déclarations des deux parties avant de rendre le verdict. Ils sont habilités à accorder des peines réduites si l'accusé admet sa culpabilité et manifeste du remords. Les procès sont un traumatisme pour tout le pays. Entendre les détails des meurtres de leurs proches après tant d'années revient à arracher la croûte des plaies des rescapés. Les tueurs, en uniforme rose, se sentent aussi humiliés de voir leurs actes étalés ainsi sur la place publique. Et leur honte rejaillit aussi sur leur famille. Mais pour certains, autant pour les victimes que pour leurs bourreaux, ce processus atroce a été une étape vers la guérison. En 2003, Cancilde est terrifiée à l'idée d'affronter le meurtrier de sa famille. Mais sa présence est obligatoire. De plus, malgré son anxiété, elle a besoin de savoir la vérité sur la façon dont son mari et ses enfants ont péri. Elle s'astreint donc à se rendre à pied jusqu'au lieu de rassemblement désigné, à l'ombre des grands arbres. Quand c'est au tour d'Emmanuel de parler, il se lève, se tourne vers la population, mais garde les yeux baissés. Surmontant ses réticences à décrire le pire qu'il a commis de toute sa vie, il raconte comment, avec 5 autres militants, ils ont débarqué dans la maison de Cancilde le premier jour des atrocités de Mukoma. Emmanuel lève les yeux, son regard éperdu parcourt les visages fermés qui sont devant lui, et il s'écrie « J'implore la miséricorde du gouvernement, la miséricorde de mon village et la miséricorde de Dieu ». En entendant ce qu'il vient de décrire, Cancilde est secouée de violents sanglots. Néanmoins, l'honnêteté et l'angoisse d'Emmanuel ont pénétré le fond de sa douleur et ont touché son cœur. L'image de ce visage déformé par la honte reste gravée dans son esprit. Les juges du Gachacha condamnent le jeune homme à 25 ans de prison pour ses crimes. Ayant fait preuve d'un remords sincère, il sera libéré au bout de 17 ans. C'est alors qu'il se présente à la porte de Cancilde. « Oui, je te pardonne », parvient-elle à articuler. Et c'est ainsi qu'en août 2015, je me suis retrouvée sur la route en compagnie de ces deux-là. Emmanuel avait toujours gardé les yeux baissés. Ensuite, nos yeux se sont croisés. « Désormais, Cancilde est comme une mère pour moi », me confie-t-il. Quand j'ai besoin de conseils, je vais la voir. Avant de me marier, j'ai réglé tous les détails avec elle. C'est elle, la fonctionnaire locale, qui a autorisé mon mariage. Troisième moyen concret. Encourager les jeunes à être des témoins de paix et de l'amour du Christ dans leurs idéaux et leurs comportements, en faisant de l'amour, de la compréhension, de la solidarité envers les autres une priorité. Le pape Benoît XVI disait « La paix n'est pas seulement un don à recevoir, mais bien également une œuvre à construire. Pour être vraiment des artisans de paix, nous devons nous éduquer à la compassion, à la solidarité, à la collaboration, à la fraternité, être actifs au sein de la communauté et vigilants à éveiller les consciences sur les questions nationales et internationales, et sur l'importance de la recherche de modalités adéquates pour la redistribution de la richesse, pour la promotion de la croissance, pour la coopération au développement et pour la résolution des conflits. L'université de paix a été créée en Belgique en 1960, avec comme objectif de réfléchir et de travailler à la paix en construisant un dialogue fraternel. Son fondateur et le père Dominique Pire, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1958. Il disait « La paix consiste et ne peut consister que dans une disposition bienveillante et réciproque envers l'autre, c'est-à-dire envers le différent, envers celui d'en face. La diversité entre les hommes est un fait, divers différentes races, différentes opinions philosophiques ou religieuses, différentes options politiques, différentes cultures, etc. » On peut dire que la paix, dans sa phase positive, c'est le commencement de la compréhension mutuelle, du respect de l'autre comme tel, c'est-à-dire de l'autre en tant que différent de nous. La phase positive de la paix, c'est ce que j'appelle la coexistence des esprits et des cœurs. La mission de cette université de paix est de créer et de maintenir un climat de paix, notamment par le dialogue. Son action pédagogique s'adresse principalement aux jeunes et aux éducateurs. Elle vise à favoriser un meilleur vivre ensemble par le partage de la réflexion, par l'expérimentation de situations et la prise de conscience des relations avec autrui. Cet objectif se traduit par un travail au quotidien avec des jeunes et des adultes afin de leur fournir des outils pour gérer les conflits d'une manière qui convienne à chacun. Dominique Pire disait « Le dialogue fraternel consiste pour chacun à mettre provisoirement entre parenthèses ce qu'il est, ce qu'il pense, pour essayer de comprendre et d'apprécier positivement, même sans le partager, le point de vue de l'autre. » L'Université de Paix, aujourd'hui, propose des formations, des conférences et de nombreuses ressources et des outils pédagogiques afin de partager le plus largement possible les méthodes de gestion des conflits. Et beaucoup de ressources sont accessibles gratuitement sur Internet. Quatrième moyen concret, promouvoir la prière et la méditation sur le message du Christ pour renforcer la conviction de paix. Quand Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle dans les lieux où ils passeraient, il leur a bien recommandé de saluer les gens de la maison en leur souhaitant la paix. Et il a précisé que si les gens ne les reçoivent pas, ni leur message, alors que cette paix revienne sur eux. L'évangile de Jésus est un évangile de paix, annoncé par des hommes qui vivent dans la paix et qui doivent transmettre cette paix. Jésus est appelé le prince de paix et il est venu pour communiquer cette paix. Dès sa naissance, le ciel a proclamé aux bergers de Bethléem par la voix des anges que la paix était dorénavant accessible aux hommes. « Il vous est né un sauveur, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Le mot « paix », « shalom » en hébreu et « eirene » en grec, apparaît plus de 250 fois dans la Bible. Jésus seul est celui qui donne la paix du cœur. Avant de quitter cette terre, Jésus a dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Jésus, un peu plus tard, leur dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle dimension de la paix, une paix que le monde ne peut donner. Pour le monde, la paix, c'est de ne pas avoir de contrariété, de ne pas avoir de problème, que tous autour de nous nous aident et nous soutiennent. Le monde, certes, peut donner à un moment une paix temporaire. Nous ne cherchons pas les contrariétés et les épreuves, mais ce sont les contrariétés et les épreuves qui nous cherchent. Dans une homélie de la journée de la paix célébrée à Rome, Saint Paul VI encourageait ainsi les fidèles. « Renforcez votre volonté convaincue de paix dans la prière, personnelle ou communautaire. » Dans les échanges et dans les méditations, où vous efforcez de connaître toujours plus profondément le Christ et de comprendre son message dans tout ce qu'il exige. Dans les sacrements et surtout dans le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel le Christ lui-même vous donne la foi, l'espérance et spécialement la charité, renforcez enfin cette conviction dans la fidélité filiale à la Vierge Marie. Cinquième manière concrète de travailler à la paix, eh bien, c'est coopérer de manière confiante avec les croyants d'autres religions dans la quête commune de la paix. Car les différences de religion ne doivent pas être une cause de conflit. Depuis 1978, la communauté œcuménique de Thésée invite des milliers de jeunes autour du Nouvel An à se rassembler dans une ville européenne pour vivre ensemble et prier pour la paix. La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu du 28 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Nous nous souvenons que le pape Jean-Paul II avait inauguré les rencontres d'Assise en invitant 130 responsables religieux du monde entier en octobre 1986, non pas pour prier ensemble, mais pour être ensemble pour prier. Le pape souligne la nécessité de la prière pour que le monde puisse enfin devenir un lieu de paix véritable et permanente. Cet événement est une illustration de plusieurs principes mis en valeur au Concile Vatican II, comme l'attention demandée aux signes des temps. Ici, la mondialisation, issue du développement des communications. L'Église catholique reconnaît aussi ce qui est vrai et saint dans les autres religions, chacune apportant un rayon de vérité, comme le mentionne la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Et plus récemment, dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous dit « Un cheminement de paix est possible entre les religions. Les croyants ont besoin de trouver des espaces où discuter et agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres. Il ne s'agit pas de vivre plus light ou de cacher les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent différemment, mais plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres avec sa contribution spécifique. En tant que croyants, nous nous trouvons face au défi de retourner à nos sources pour nous centrer sur l'essentiel, l'adoration de Dieu et l'amour du prochain, de manière à ce que certains aspects de nos doctrines, hors de leur contexte, ne finissent pas par alimenter des formes de mépris, de haine, de xénophobie, de négation de l'autre. La vérité, c'est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leur déformation. Alors, chers auditeurs de Radio Maria, ouvrons nos cœurs avec confiance au Christ ressuscité qui ne cesse de répéter « La paix soit avec vous ». Que notre méditation et notre prière, nos rencontres et nos pardons, nos efforts de compréhension mutuelle et de réconciliation portent du fruit pour la paix dans le monde. Je vous donne maintenant rendez-vous sur Radio Maria le mardi 22 mai à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la citoyenneté selon l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Citoyenneté selon l'Évangile avec Sœur Marie-Isabelle. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.